Vous écoutez L'Ambition au féminin, épisode 20.
Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime L'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde.
Bonjour, bonjour les ambitieuses, comment vous allez aujourd'hui? Nouveau lundi, nouvel épisode de podcast. Et pour beaucoup d'entre vous, c'est un lundi bien spécial parce que vous êtes peut-être confinés à la maison avec vos enfants parce que les écoles sont fermées en raison de l'épidémie de coronavirus qui sévit en ce moment. Un moment pas mal stressant, pas mal paniquant pour plusieurs. Mais aujourd'hui, je voulais justement faire un épisode spécial pour parler justement de télétravail et partager avec vous des trucs et des outils pour que vous puissiez rester productif, rester motivé pendant que vous passez à travers cette période-là qui est, ma foi, je l'admets, vraiment pas évidente. Surtout si vous êtes pas habitué à travailler de la maison. Surtout si il y a quand même beaucoup de stress et d'anxiété en ce moment dans l'air, mais que vous avez besoin de continuer des activités, que vous soyez travailleur autonome ou entrepreneur. Donc, les trucs que je partage aujourd'hui, c'est sûr que ça s'applique à n'importe quel moment où est-ce qu'on décide justement de faire de son chez-soi son bureau. Mais c'est ça, je me suis dit que c'était probablement à propos pour beaucoup là qui sont confrontés à cette nouveauté-là, là, qui est quand même, comme je l'ai dit, là, un peu stressante. Alors moi, personnellement, ça fait plusieurs années que j'ai lancé MTamark et que MTamark est piloté de mon salon et parfois de ma chambre à coucher. Je vous avoue que j'enregistre mes podcasts dans ma chambre à coucher parce que souvent, c'est là qu'il y a le moins de bruit et c'est le plus confiné. Et souvent aussi, vu que je travaille dans les communications et le marketing, j'ai la possibilité dans mes emplois de faire beaucoup de ce travail-là de la maison, de mon travail de la maison. Et maintenant, avec les outils qu'il y a de vidéoconférence, puis le email, puis tout ça, c'est très, très, très facile de collaborer à distance. Et je pense que le plus grand défi, ben c'est ça, c'est de rester aussi productif que quand on s'est déplacé pour son lieu de travail puis qu'on a vraiment un cadre de travail régi par une communauté de travail, si je peux dire. Alors, je vais vous parler autant de méthodes de concentration que d'outils que j'ai soit testé ou dont j'ai entendu parler. Et puis, je serais intéressée à savoir si vous avez des trucs aussi pour vous garder motivé. Là, c'est sûr que si vous êtes pigiste depuis un petit bout de temps, vous devez avoir vos propres trucs. Malheureusement, aujourd'hui, je ne vais pas vous suggérer d'aller dans un café pour travailler si c'est ça votre truc, parce que bon, on essaye de confiner les déplacements, et surtout si vous avez des enfants à la maison, ça peut susciter des complications aussi au niveau de l'organisation. Alors, on va parler un petit peu de tout ça, je vais vous parler un petit peu de mon expérience. C'est sûr que bon, c'est mon expérience parmi tant d'autres, mais j'espère que vous allez y trouver votre compte. Alors, une des premières choses pour rester motivé et pour vraiment s'assurer qu'on garde un esprit productif tout au long de la journée, ben c'est de utiliser certaines méthodes de concentration, comme par exemple la méthode Pomodoro. Si vous connaissez pas encore la méthode Pomodoro, c'est je connais pas exactement toute l'historique de comment ça a été régi, mais c'est basé sur le fait que on se crée des moments de concentration qui sont interrompus par des petites pauses à travers la journée. Et puis, dans le fond, c'est un petit peu envoyer notre cerveau le message que, bon, là maintenant on se concentre, sachant que la pause s'en vient dans un temps déterminé. Et donc, on n'est pas laissé à nous-mêmes à savoir, ok, est-ce que je suis fatiguée, est-ce que j'ai faim, est-ce que j'ai envie de boire de l'eau, nanani, nanana. Non, là on est en train de travailler. Donc, la méthode Pomodoro en général, puis là il y a des petites applications que vous pouvez trouver facilement sur Internet ou des timers. Comme par exemple, moi j'utilise j'utilise Toggle, qui est une façon de pas calculer mon temps, mais traquer, dans le fond, le temps que je passe sur plusieurs projets. Et sur Toggle, tu as la méthode Pomodoro d'inclus, c'est-à-dire que tu peux activer ou désactiver cette fonctionnalité-là, ce qui fait que quand je pars mon minuteur, ça va minuter pendant 25 minutes une tâche, puis par exemple, bon, je vais nommer ma tâche, je suis en train de travailler sur un article de blog, disons, et après 25 minutes, je vais entendre un petit ding, et ça va vouloir dire que je peux prendre un petit break pour soit aller aux toilettes, aller me servir un thé, ou aller me dégourdir les jambes. Et puis, bon, la méthode Pomodoro, c'est de faire comme quelques séances, je crois que c'est peut-être 3 ou 4 séances, et puis après, tu peux prendre un plus long break, comme par exemple aller dîner, aller prendre une marche, des choses comme ça. Le but de ça, c'est aussi, je trouve que c'est le fun parce qu'on peut s'oxygéner le cerveau si c'est nécessaire, bon... C'est le moment aussi de justement se lever de sa chaise, repenser à sa posture, aller s'hydrater. Donc, garder un petit peu cette idée que on est quand même assez... On prend soin de soi au travail. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que ce type de méthode-là les aidait immensément à rester focusé sur une tâche, surtout quand c'est des tâches de concentration, des tâches qui sont un petit peu plus difficiles à juste s'asseoir et à rentrer dedans. Ce qui est nice aussi avec le timer par exemple sur Toggle, c'est que si par exemple t'es dans un flow, puis là tu travailles super bien, c'est sûr que tu peux décider de continuer ton travail puis de juste rester dans ta vibe là, de création par exemple, mais l'idée d'avoir des breaks comme ça prédéterminés, c'est sûr que ça enlève un stress puis une petite charge mentale aussi par rapport au travail qui peut parfois être tedious, je me rappelle pas c'est quoi le nom en français là, mais peut-être un peu lourd sur le système. Donc ça, c'est une des méthodes. L'autre chose que moi, j'aime beaucoup faire, outre la méthode Pomodoro, c'est de fonctionner par Big Three, ou les grandes priorités principales de ma journée. Fait que moi, comment je fonctionne, c'est que tous les débuts de semaine, le lundi par exemple, la première chose que je fais quand j'arrive au travail ou quand je commence justement ma semaine avec M. Tamarck, c'est que je liste tout ce qu'il y a dans ma tête que je me dis que je dois faire. Et puis, ensuite, je détermine lesquelles vont être faites cette semaine. Donc, ça va être quoi mes 3 grandes priorités cette semaine. Et ensuite, je prends ces tâches-là, puis je me dis, bon, je vais, mettons, me concentrer sur toutes ces grandes choses-là aussi. Et puis là, je les mets dans mes journées. C'est-à-dire, le lundi, je vais faire... Exemple, écrire mon infolettre, le mardi, un de mes objectifs, ça pourrait être d'enregistrer 2 épisodes de podcast, etc., etc. Et comme ça, après ça, les tâches, comme par exemple répondre à des courriels ou des tâches un petit peu connexes, viennent un peu s'ajouter comme des éléments secondaires à mes big three. Puis, pourquoi j'aime ça, c'est que... ça enlève un peu le overwhelm ou l'immensité des tâches quand on voit une longue liste de choses à faire ou quand c'est tout mélangé dans notre tête puis on se sent un petit peu anxieuse parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de travail à faire, mais en les mettant sur papier puis après ça en déterminant, bon, si j'ai réussi ça aujourd'hui, je vais avoir considéré que ma semaine est réussie ou que ma journée est réussie, et puis petit à petit, on prend... c'est des petites bouchées du gros morceau qu'on a à manger, et puis on arrive quand même à des résultats assez impressionnants. C'est notamment ce que j'utilise quand j'utilise mon planner, Full Focus Planner, et à chaque jour, justement, j'ai une liste de 3 priorités plus des tâches secondaires, et je vous dis souvent, bien souvent, j'ai commencé à voir qu'est-ce que je suis capable de faire dans une journée, sachant notamment que j'ai d'autres responsabilités, comme par exemple, moi, je partage beaucoup mon temps avec mon bébé, naturellement, parce que j'ai pas des gardiennes de 9h à 5h. J'ai des gardiennes qui vont peut-être venir des après-midi ou pendant quelques heures pour m'aider, ou, tu sais, quand je dois travailler pendant la sieste ou des choses comme ça. Fait que c'est vraiment d'apprendre qu'est-ce qu'on est capable aussi de mettre sur notre assiette et de prioriser les choses qui vont avoir le plus d'impact au bout du compte. Donc ça, c'est super facile à implanter, juste un papier, un crayon. Et l'avantage aussi de ça, c'est que c'est super nice de pouvoir cocher des choses quand on a fini à la fin de la journée. Puis après ça, de juste les reporter à plus tard si jamais on n'a pas fini. Comme par exemple, si le lundi, ben vous avez fait 4 tâches sur 6 que vous vouliez, ben les deux qui restent, vous pouvez dire, OK, ben je vais les faire soit mardi, ou si mardi j'ai une journée occupée, ben je vais les faire une autre journée. Donc, quand on travaille de la maison, avoir ce genre de priorisation-là, c'est important parce qu'il va y avoir beaucoup de distractions qui vont peut-être venir prendre le devant. Et quand on reste focus sur quelques tâches qui vont faire bouger l'aiguille là, dans le positif, bien là, on peut se coucher la nuit en se disant qu'on a accompli quelque chose. Pour maintenir ou pour faire le suivi de ses priorités et aussi pour collaborer, un outil que j'aime beaucoup et que j'utilise en ce moment avec notamment mon adjointe virtuelle, c'est Asana. Je l'utilise aussi dans d'autres mandats que je fais en entreprise. Donc Asana, c'est un logiciel en ligne de gestion de projet dans lequel, bon, on peut créer des projets, mettre des tâches, des sous-tâches, assigner des gens, mettre des dates d'expiration, des délais, etc. Les versions gratuites sont quand même assez puissantes. Et moi, c'est ça que j'utilise avec mon adjointe, notamment. Avec les versions payantes, là, tu peux vraiment faire des diagrammes de Gantt. Tu peux, genre, voir plusieurs tâches qui vont se superposer, les tâches qui sont dépendantes de d'autres tâches ou des choses comme ça. Mais c'est le fun d'avoir un logiciel comme ça pour confiner toutes les petites tâches, les petites procédures qu'il y a à faire et aussi se laisser des suivis, se laisser des traces sur ce qui a été fait. Donc, quand on travaille de la maison puis qu'on n'est pas directement en lien avec l'équipe avec qui on travaille, d'avoir quelque chose qui suit les procédés à travers le temps et à travers les multiples fonctions, parce que souvent, ce qui arrive, c'est que, bon, par exemple, quelqu'un va faire le graphisme, quelqu'un va faire la rédaction, quelqu'un va faire l'intégration sur un site ou des choses comme ça. Comment est-ce que tout ce monde-là se parle? Comment est-ce que tout ce monde-là sait où est-ce qu'on en est rendu dans les projets sans constamment faire des meetings? Ben, des logiciels comme Asana ou il y en a qui utilisent Trello aussi pour faire ces suivis-là, c'est super, super utile. J'en ai découvert un nouveau récemment qui s'appelle Notion, N-O-T-I-O-N, et c'est le fun parce que c'est à la fois un Asana, c'est un Evernote où est-ce que tu peux mettre des liens, enregistrer des liens, enregistrer tout un tas d'affaires sur ton Notion, te laisser des notes, etc., etc. Et j'ai commencé à l'utiliser, mais seulement dans ma vie personnelle. Ben un jour, je vous en reparlerai un petit peu plus, mais c'est quelque chose que je vous encourage à aller regarder. C'est gratuit aussi jusqu'à, je pense que vous avez droit à 3 comptes sur ou 3 utilisateurs, bref, à vérifier, mais Notion, c'est quelque chose quand même qui est nouveau et que j'ai commencé à apprivoiser un petit peu. Maintenant, naturellement, quand on travaille de la maison puis qu'on n'a pas des contacts pour faire des meetings ou on n'a pas de salle de conférence ou des choses comme ça, les logiciels de visioconférence sont super, super, super utiles, si ce n'est essentiel. Moi, j'utilise Zoom. J'en ai parlé dans un autre épisode, mais pourquoi j'aime beaucoup Zoom et je prends la version payante, c'est que, bon, tu peux tout enregistrer tes conversations, tu peux avoir plusieurs intervenants sur l'appel. C'est possible de faire des webinaires, de faire des partages d'écran, bref, tout ce que j'ai besoin pour faire mes meetings, pour faire mes coachings aussi quand que je travaille d'ici de la maison. Et l'autre chose que vous pouvez utiliser si vous préférez avoir quelque chose qui est gratuit pour le moment, du moins, c'est naturellement Skype ou Google Hangout. Ce qui est le fun avec Google Hangout, c'est que quand vous utilisez la suite Gmail ou que vous utilisez justement des calendriers partagés, par exemple, si votre calendrier est sur Gmail puis vous savez que les gens dans votre organisation sont sur Gmail, quand on crée un événement et qu'il n'y a pas de lieu, ça va générer une salle Hangout automatiquement et donc tout le monde peut juste se joindre à la réunion via Hangout. Alors, moi, en ce moment, j'ai un mandat avec une entreprise au centre-ville de Montréal et ils savent très bien que j'ai un bébé en bas âge. Donc, il y a des moments où est-ce que je ne peux pas me joindre à eux en personne et je le fais toujours via Hangout et ça marche super bien parce que là encore, on peut faire des partages d'écran et tu sais, tout ça est intégré dans la suite Gmail, dans la suite qui est utilisée. Ce qui est difficile, comme je l'ai mentionné, de travailler à la maison, c'est aussi d'être interrompu et d'avoir toute la charge mentale qui vient avec le fait d'être à la maison. Parce que souvent, ce que les gens vont dire, c'est que « Ah, j'arrive pas à me concentrer quand je suis chez moi parce que je pense à la poubelle qu'il faut que je sorte, je pense à que j'ai envie de nettoyer les planchers, là, il y a les enfants qui courent parce qu'ils sont à la maison, ils sont pas à l'école, il faut que je les occupe, il y a la télé qui joue, nanani, nanana. » Bon, pour tout ce qui est bruit ambiant, naturellement, il y a des choses comme par exemple des écouteurs qui vont bloquer les bruits que vous pouvez utiliser si vous êtes vraiment pas capable de vous concentrer parce que vous êtes habitué à travailler avec une porte fermée ou des choses comme ça. Je vous avoue que moi, ça fait très longtemps que j'ai pas travaillé dans un bureau avec une porte fermée, fait que je commence à m'habituer au bruit ambiant quand il faut que je me concentre. Mais c'est sûr que il faut être capable de déterminer qu'il va y avoir des périodes où on va se lever pour aller voir qu'est-ce que les enfants font. On va aller se chauffer un lunch ou peut-être se faire à manger ou des choses comme ça. Puis il faut accepter ça. Parce que un des avantages, mais aussi peut-être des désavantages de travailler à la maison, c'est qu'on est complètement maître de notre horaire. Donc, on peut commencer à travailler à 6 heures du matin si on veut, puis arrêter de travailler à 3 heures. On peut faire de 6 à 8. Après ça, on prend un break de 8 à 10 parce que, tu sais, on doit préparer le déjeuner, on doit faire tout un tas d'affaires. Alors, cette flexibilité, c'est vraiment, vraiment utile. Naturellement, dans les circonstances dans lesquelles on est, avec la pandémie, les employeurs ont été demandés d'être quand même flexibles par rapport à ça parce que c'est pas vrai qu'on va faire un 9 à 5 à la maison comme on ferait un 9 à 5 au travail. Mais par rapport à ça, puis si vous voulez naturellement utiliser la méthode Pomodoro, c'est un bon moment pour se dire « Ok, ben je vais travailler 25 minutes, puis après ça, je vais aller faire mon ménage qui m'énerve tellement » ou des choses comme ça. Mais aussi d'accepter qu'il y a des moments où est-ce que vous allez juste pas être en mode productif, puis vous allez être en mode un peu plus réactif ou pas intuitif, mais en train de réfléchir, tu sais, parce que moi, je pense qu'on travaille tout le temps, même quand on n'est pas assis à son ordi, là. Je pense que quand notre cerveau, il travaille sur un problème, on peut le faire en faisant le ménage ou en faisant à manger ou peu importe, mais de respecter aussi vos cycles de productivité et de repos. Je sais pas si j'en ai déjà parlé sur le podcast, je pense que oui, mais une des choses qui est les plus géniales dans la vie, c'est réaliser quand est-ce qu'on est le plus productif et essayer de matcher notre horaire avec ça. Par exemple, moi je sais qu'à partir de 3 heures l'après-midi, j'ai un down de créativité, dans le sens que je suis pas capable d'écrire entre 3 heures et 9 heures du soir. Donc, ce que je fais, c'est que j'organise ma journée pour que à partir de 3 heures, je vais faire des tâches plus administratives, des tâches plus cléricales. Je vais répondre peut-être à des courriels qui vont pas nécessiter que je me concentre beaucoup. Je vais pas faire de coaching non plus à ce moment-là parce que c'est un moment dans la journée où mon énergie est plus basse. Donc, je vais prioriser mes coachings, soit la matinée ou en début d'après-midi ou des choses comme ça. C'est sûr que là, en ce moment aussi, moi, j'essaye de matcher les siestes de ma fille avec tout ce qui est appel, meeting ou autre. Mais tu sais, ça, c'est parce que, bon, j'ai commencé à instaurer des routines chez moi qui font que je peux plus facilement instaurer des routines aussi qui sont en lien avec le travail. Et, par exemple, aussi, je sais que encore une fois, de 4 heures à 6 heures, ou même de 10 heures à midi, c'est des moments où est-ce que ma fille a beaucoup besoin de moi, et donc, je suis indisponible pour travailler. Mais c'est des choses que je vais reprendre le soir. Je vais travailler peut-être jusqu'à 8 heures. Je vais faire une heure après le souper ou des choses comme ça pour terminer du travail que j'aurais pas pu faire pendant la journée. Donc ça, c'est une belle flexibilité qu'on a, mais qui va demander de la souplesse de la part de tout le monde qui est à la maison. Parce que c'est la même chose comme par exemple mon mari, que lui, il travaille dans un bureau quand il revient. Puis là, c'est le souper, puis tout ça. Mais après ça, il sait que j'ai encore une heure de travail parce que j'ai pas terminé. Donc, c'est aussi considérer ces moments-là aussi, de voir quand est-ce que c'est le plus propice pour vous de faire certaines tâches. Puis, avec un petit peu de pratique, ben ça va devenir un peu plus intuitif et instinctif. Est-ce que ça demande plus d'efforts d'organiser sa vie comme ça? Oui. Mais, tu sais, là, on s'entend, c'est des circonstances quand même spéciales. Et je pense que quand on est capable d'avoir cette souplesse-là par rapport à notre travail, puis qu'on se connaît à ce point-ci, à ce point-là, pour savoir quand est-ce qu'on est les plus productifs dans certaines tâches, ben ça nous ouvre quand même tout un champ de possibilités et ça augmente non seulement notre productivité, mais notre motivation. Parlant de ça, il y a un exercice aussi que je vous encourage vraiment beaucoup à faire, et c'est l'exercice de la semaine idéale. Parce que, bon, on s'entend que même si les écoles sont fermées ou des choses comme ça, on suit des horaires. T'sais, on a tous quand même un cycle de vie, on se réveille autour de la même heure tout le temps, on mange tout le temps autour des mêmes heures, etc. Et comme je viens de le mentionner, on a aussi des cycles de productivité. Donc, une semaine idéale, c'est vraiment l'idée de prendre, par exemple, les tâches récurrentes que vous avez à faire dans votre semaine et de prendre de quoi a l'air un petit peu votre day-to-day. Comme par exemple, si vous, optimalement, là, vous aimez ça de travailler la nuit, là. Puis vous êtes capable de vous lever aussi tard que 9h parce que, bon, disons que vous n'avez pas d'enfants ou des choses comme ça. Alors, tu sais, pourquoi ne pas profiter de ça pour dire, ben moi, il y a des choses que je vais faire seulement vraiment tard. Comme par exemple, je sais que j'ai des meetings que je dois faire des meetings avec mon supérieur à toutes les 2 semaines ou tu sais quelque chose comme ça. Alors de se dire ben puis si j'avais mon meeting à 10h tous les lundis et moi je peux dormir jusqu'à 9h ou 8h30. Et puis comme ça ensuite les tâches que j'ai pas besoin d'être supervisée, ben je peux les faire le soir ou des choses comme ça quand mon esprit est beaucoup plus clair. Et puis ce que ça va donner, c'est qu'après ça, à tous les jours, il y a des moments idéaux pour faire certaines choses. Par exemple, est-ce que vous aimez ça faire votre sport le matin? Ben, tu sais, en mettant ces éléments-là dans son horaire, ben, on s'oblige un petit peu à penser selon cette structure-là, même si on est travailleur autonome ou on est travailleur à la maison. Et ce que ça fait, c'est qu'on commence à rentrer justement nos meetings à telles heures, puis à se créer une routine malgré tout, même si elle est complètement subjective puis créée par nous. Donc ça, c'est un exercice que je fais bien, que j'aime bien. Naturellement, c'est pas toujours possible de respecter notre semaine idéale, mais c'est pour ça que ça s'appelle un idéal. On essaye toujours d'aller vers ça le plus possible. Petite chose aussi pour quand on travaille à la maison, qui est un danger potentiel, c'est de ne pas être capable de s'arrêter et donc de surtravailler. Un des petits trucs pour s'assurer qu'on est capable de cesser le travail et de passer à d'autres choses, par exemple, sans retourner à la vie familiale, passer du temps avec les gens qui sont là, s'occuper de la maison, etc., c'est d'avoir un rituel de fermeture ou un rituel de fin de journée. Donc, disons que vous vous êtes dit dans votre semaine idéale, bon, je vais faire ma petite heure après manger, puis après ça, ça va être fini. À partir de 8h ou 9h, je ne travaille plus, je n'ouvre plus mon ordinateur, je ne regarde plus mes courriels, je ne pense plus au travail. Donc, c'est un petit peu de demander à votre cerveau qu'est-ce que ça prendrait pour créer une closure, une fermeture autour de ma journée pour que je me sente que, bon, ça y est, j'ai fait ce que j'avais à faire aujourd'hui, demain, je recommence à partir de ce point-ci. Eh bien, ce que j'ai dit au début par rapport à vos trois priorités, ça peut être un début, à savoir de dire « Est-ce que j'ai rempli mes trois priorités? » Première question. Deuxièmement, de regarder toutes les tâches que vous vouliez accomplir et de les reporter à la journée suivante ou à d'autres journées dans la semaine. Troisièmement, de regarder quelles tâches vous avez à faire demain et d'avoir un plan de match. Comme ça, vous n'êtes pas... Parce que l'idée de ne pas avoir un plan de match pour le lendemain, ça fait que on réfléchit à tout ce qui s'en vient dans les jours qui viennent, puis on angoisse. Puis ça, ça fait que notre cerveau, il continue à y penser pendant la nuit. Puis tu sais, des fois, on se réveille en plein milieu de la nuit, puis là, on est comme « Oh my God, j'ai oublié d'écrire un email à telle personne. » Ben justement, avoir un rituel de fermeture, ça fait que « Ok, est-ce que j'ai pensé à tout ce que j'avais à faire? » Et puis, c'est confiné à quelque part, ça va être pris en charge, mais maintenant, c'est le moment pour moi de relaxer. Donc ça, c'est super important quand on travaille de la maison, de ne pas se faire submerger par le travail, de ne pas d'enlever ses notifications de son téléphone à partir d'une certaine heure, dire comme « Ok, that's it, je mets mon téléphone en vibration ou je mets mon téléphone à off et je ne lis plus de courriel, je ne regarde plus de notifications Facebook, that's it. » Donc ça, c'est important aussi, puis ça a l'air peut-être un peu anodin, mais ça va faire une grosse différence dans votre état de productivité, mais aussi dans votre bien-être par rapport au travail que vous accomplissez. Et finalement, tu sais, pour un des grands enjeux aussi quand on travaille de la maison, ben c'est naturellement la solitude, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont besoin de l'énergie d'un groupe pour travailler, pour se sentir qu'ils font une différence dans le monde, juste pour socialiser, parce qu'on s'entend, tu sais, notre lieu de travail, c'est notre lieu principal de socialisation, puis quand on est obligé de travailler de la maison ou quand on n'est pas habitué de travailler de la maison, ben on peut sentir que les journées sont longues puis qu'on a envie de parler à des gens. Alors, une des choses que je suggère par rapport à ça, surtout, bon, dans des cas comme en ce moment où est-ce que aller littéralement parler à des gens en chair et en os n'est peut-être pas une option parce qu'on essaye de limiter les contacts sociaux. Ben, c'est génial parce que ces temps-ci, il y a jamais eu autant de communautés en ligne, de communautés d'entraide entre professionnels et des groupes vraiment, vraiment intéressants. Et si ça n'existe pas encore, tous les outils sont présents pour les créer. Puis là, je pense notamment à un super groupe qui existe sur Facebook qui s'appelle Professionnels des réseaux sociaux et du web du Québec et qui a été lancé par Rachel Hood Simard. Il y a d'autres groupes comme par exemple la communauté WordPress de Montréal. Là, je vous parle de groupes qui sont dans mon domaine, dans les communications et le marketing. Il y a le groupe Vite Pigiste justement de Catherine Cormier que j'ai reçu la semaine passée et dont la deuxième partie de l'entrevue va être diffusée la semaine prochaine. Mais des groupes de pigistes où est-ce qu'il y a beaucoup d'entraide, beaucoup de conversations et juste trouver ces groupes-là, trouver ces personnes-là qui pourraient échanger avec vous, même si c'est en ligne, ça nous empêche pas de faire des moments de vidéoconférence ou des choses comme ça pour juste discuter de votre réalité, pour demander conseil, pour parler de choses et d'autres qui seraient en lien avec votre contexte professionnel. D'un point de vue dans l'entreprise, tu sais, il y a des intranets qui existent naturellement, mais il y a aussi des outils comme par exemple Slack qui permet de communiquer. C'est comme un chat. Tu peux échanger des documents, des dossiers à travers ça. C'est super utile pour la communication interne aussi. Si vous êtes une plus grosse organisation ou si vous travaillez sur des projets à plusieurs, c'est quelque chose qui pourrait être très, très utile. Sinon, ben naturellement, il y a LinkedIn, où est-ce que vos collègues sont présents. Et puis, moi, ce que je trouve le fun aussi avec LinkedIn, c'est que c'est un réseau social quand même qui focus beaucoup sur la positivité, sur l'optimisme. Et donc, des fois, juste aller partager des états d'âme ou des choses comme ça par rapport au monde professionnel et trouver des gens qui sont dans notre domaine, dans plusieurs contextes différents, puis d'initier des conversations qui vont faire réfléchir, ben ça vaut la peine aussi quand on est justement à la maison puis on a besoin de socialiser un peu. Alors, voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'autres applications qui peuvent vous aider à rester productive et motivée lorsque vous travaillez de la maison. J'espère que ça vous a donné des petits trucs, des petits éléments de réflexion, surtout maintenant que, bon, peut-être que, justement, vous êtes obligé de rester à la maison pour les deux prochaines semaines. Bon, j'ai pas parlé beaucoup de quoi faire avec les enfants quand ils vont pas à l'école. C'est sûr que c'est un challenge. J'espère que vous avez l'aide de votre conjoint ou quelqu'un qui est peut-être à la maison qui pourrait être pas loin pour vous aider ou si peut-être, justement, un des enfants un petit peu plus vieux peut s'occuper des plus jeunes ou des choses comme ça. Personnellement, moi, j'ai un bébé, donc je suis encore très, très, très présente dans sa vie. C'est sûr que ça crée des horaires très atypiques. Les gens qui travaillent avec moi doivent être très flexibles aussi, mais c'est quelque chose que je dis souvent d'emblée. Et puis, sachant que ça va être la situation de pas mal tout le monde, j'espère que il va y avoir quand même une vague de compréhension autour de ces nouveaux paramètres là. Donc sur ce, ben je vous souhaite quand même une super belle semaine. On va revenir la semaine prochaine avec la deuxième partie de l'entrevue avec Catherine Cormier. Entre-temps, prenez bien soin de vous. Restez optimiste, restez positif. Et si vous avez besoin de parler de quoi que ce soit qui est en lien avec le travail à la maison, le travail autonome, pendant les deux prochaines semaines, je suis disponible gratuitement pour vous donner des conseils si vous voulez. Venez juste me parler, que ce soit sur Facebook ou Instagram. Je vous dis pas que je vais vous répondre tout de suite, parce que comme je vous dis, je travaille avec mon bébé pas loin. Mais j'aimerais vous offrir quand même de vous aider le plus possible là, si vous identifiez un challenge et que vous voudriez en parler. Sur ce, encore une fois, je vous souhaite une super belle semaine et puis tous ensemble, en se serrant les coudes puis en étant vigilants, ben on va être capable de passer à travers cette épreuve-là et on va se rappeler de ça comme d'un moment où est-ce que non seulement la technologie va nous avoir aidés, mais on va avoir repensé aussi des nouvelles façons de travailler et d'exister en société. Alors, belle semaine à vous et on se reparle très bientôt. Salut les ambitieuses! J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur mtamarque.com/invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profites-en pour t'abonner à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!